vivez conscient. La vie est un art, le bonheur, individuel et collectif, est lié au respect des grands principes enseignés depuis toujours par les sages du monde entier. Cette émission passe en revue les grands domaines de la vie afin de montrer l'actualité des enseignements de sagesse ancienne. Bonsoir David.
Bonjour Olivier.
Eh bien, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode de Vivez Conscient qui va être consacré cette fois au thème de l'éducation.
Alors, on va parler de l'éducation dans un sens très large, Olivier, hein?
Oui, je pense qu'on pourrait déjà, dans un premier temps, dire dans tous ces vastes enseignements de sagesse ancienne, quel livre ou quel auteur nous a inspiré pour préparer cette émission. On peut pas parler de tout le monde hein, sur le thème de l'éducation. Énormément de sages ont parlé d'éducation, naturellement.
Alors voilà, notre référence principale, c'est l'éducation dans le Nouvel Âge d'Alice Bailey. C'est une éducation futuriste, on peut dire. Hein. Il essaye de... Donc c'est, je dis il parce que c'est Alice Bailey transcrivait les enseignements d'un sage, d'un Tibétain qui s'appelle Joel Cool, qui a proposé des nouveaux principes pour une éducation du futur. Le Nouvel Âge, c'est ça, c'est le cycle nouveau dans lequel on se trouve maintenant.
Quand même préciser qu'Alice Bailey a écrit ce livre dans la première moitié du XXe siècle. Hein.
Voilà, entre 1919 et 1949, je ne sais pas précisément l'année de l'apparition de ce livre. Mais il est encore très, très moderne, il est encore très d'actualité, on pourrait dire. Hein.
Donc Alice Bailey, une occidentale, et puis le sage dont tu parles, lui, un oriental. Donc voilà. C'est vraiment une synthèse, en fait. Hein.
Voilà, on peut voir que quand on est empli de sagesse, à ce moment-là, les problèmes culturels sont dépassés. On peut vraiment, même toutes les formes de limites, en fait, de culture, d'âge, de sexe, de race et autres, on dépasse parce que tous les êtres humains ont des éléments en commun. Ils ont aussi des divergences, c'est important de les connaître, bien sûr, mais le thème de l'éducation, on est dans cette perspective-là, on peut dire, c'est permettre à un être humain de s'épanouir à tous les niveaux.
Alors, il existe quantité d'autres sages qui ont parlé d'éducation. Je voudrais juste en nommer quelques-uns pour dire que on leur accorde beaucoup de crédit aussi, mais on peut pas parler tout le monde, encore une fois, dans cette émission, donc on va se concentrer sur Alice Bailey. Mais bien sûr, des choses très intéressantes ont été dites par Krishnamurti, par Steiner.
Aurobindo,
par aussi des gens qui ont lancé des méthodes comme Montessori, Freinet ou autres. Hein. Et tout ça est extrêmement valable, ça fait partie d'un vaste ensemble d'expérimentations, on pourrait dire, pour passer d'une éducation qu'on va essayer de vous décrire à une autre éducation pour les temps à venir.
Alors, on ne veut pas non plus, Olivier, faire un procès de l'éducation nationale. Hein. Ça, ce n'est pas du tout non plus notre objectif. On sait que c'est un travail très difficile, que aussi l'éducation reflète aussi l'état de notre société, son état d'avancement. Donc c'est sûr que si la société évolue, l'éducation évoluera et l'inverse aussi. Donc l'idée, c'est plutôt peut-être de proposer des pistes, en fait.
Alors, est-ce qu'on pourrait commencer en disant, en essayant de définir l'éducation? Qu'est-ce que devrait être l'éducation? Qu'est-ce que c'est?
Ouais, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Olivier?
Moi, je dirais que l'éducation est ce qui devrait aider l'être humain, que ce soit un enfant ou un adulte d'ailleurs, hein, parce que c'est quelque chose qui va durer tout le long de la vie, à devenir vraiment lui-même, ce qu'il est au fond de lui-même, à pouvoir manifester, créer tout l'aspect créatif. Si on prend l'exemple de l'aspect créatif, on a tous un aspect créatif en nous et on peut voir à quel point il est peu développé chez la plupart des personnes. Et c'est dommage, donc c'est tout un potentiel qu'on a qui n'est pas actualisé, dont l'humanité ne profite pas pour finir.
Oui, je rajouterais que l'éducation devrait concerner tous les aspects de l'être humain, donc l'aspect physique, l'aspect sensible, affectif, l'aspect mental et je rajouterais même l'aspect spirituel. Je dis pas forcément religieux quand je dis spirituel, hein, c'est-à-dire vraiment ce qui traite de l'esprit, ce qui traite de la conscience supérieure. Voilà, l'éducation devrait proposer à tous ces niveaux-là des voies d'expression, d'épanouissement, de maîtrise, de développement. Donc on voit déjà qu'on n'est pas sur une éducation super spécialisée, hyper centrée, hein, par exemple sur une voie scientifique essentiellement ou littéraire. Ou, hein, il faudrait que le sport, que la musique, toutes les formes d'art, pourquoi pas la méditation en tant que pratique d'ouverture de l'esprit, du champ de l'esprit. Hein,
c'est l'éducation au connais-toi toi-même pour finir.
Oui, c'était la formule de... Adelph, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers.
Donc c'est à ça que devrait tendre l'éducation, que chacun puisse se connaître soi-même.
Alors, qu'est-ce que fait l'éducation pour l'instant? Comment est-elle entrevue?
Alors, on peut dire que l'éducation aujourd'hui tend simplement à inculquer aux enfants des éléments essentiels de base pour qu'ils puissent être des acteurs de la vie dans la société actuelle telle qu'on l'envisage. Donc on pourrait dire en France, par exemple, essentiellement des acteurs économiques. C'est l'homo economicus et l'aspect économique et la dimension de l'homme qui domine dans l'esprit des gens qui sont à la tête de la société actuelle, hein, qui conduisent la société. Et ça se reflète dans l'éducation avec des enfants à qui... on va essentiellement apprendre un métier, on va chercher à ce qu'ils connaissent un métier.
Oui, on ne peut même pas dire que la culture est au centre de l'éducation. C'est comme tu dis, la vie économique est quelque chose de même parfois de presque fonctionnel. On va à l'école, comme tu dis, pour apprendre un métier et plus à la rigueur, plus on pourrait diriger tôt l'enfant, plus on aurait tendance à le faire, à aller vers cette voie pour, par souci d'efficacité. Alors qu'on se rend compte qu'on peut laisser en chemin énormément de parties de nous-mêmes endormies, en fait, latentes.
Et donc, beaucoup d'enfants ne vont pas se retrouver, évidemment, dans un tel système. Des enfants qui seraient, alors je reprends l'exemple du créatif pur, un enfant qui serait vraiment un créatif ne va pas se retrouver dans le système actuel. Et donc, c'est tout un potentiel qui va être perdu à jamais.
Alors d'autant plus que l'éducation repose beaucoup sur la mémoire en fait. Hein. Donc on sait bien sûr forcément il va y avoir des enfants qui vont être beaucoup plus aptes à enregistrer, mémoriser, qui vont avoir une approche de la vie plus mentale. Alors ceux qui ont une approche de la vie plus sensible, avec une pensée par exemple plus analogique, plus imagée, plus artistique, donc plus sensible, vont pas se reconnaître dans ces méthodes-là. Et donc il n'y a pas plusieurs éducations, il n'y en a qu'une qui est appliqué à tout un ensemble d'enfants très différents. Donc on arrive parfois, comme tu le dis, à des... On le voit d'ailleurs dans le domaine artistique ou alors ailleurs, on voit des gens qui étaient des cancres et qui vont après dans leur domaine s'épanouir et devenir très bons.
Et ça arrive même dans la science, hein. On sait que certains génies de la science étaient des cancres lorsqu'ils étaient élèves, tout simplement parce qu'ils étaient face à un système éducatif qui ne leur convenait pas. Alors on continue avec David sur le thème de l'éducation. Est-ce qu'on pourrait essayer de qualifier les grandes tendances de l'éducation actuelle, telles qu'elle est donnée actuellement?
Alors on a déjà parlé donc de l'orientation exclusive vers le monde professionnel, hein, l'éducation étant cantonnée à former quelqu'un à apprendre très vite son travail. Donc tu parlais de la forte dimension économique. Il y a un problème qui est lié aussi, c'est que l'éducation reflète un peu les maux de la société et on peut parler d'un mal social comme étant celui de la compétition. Mmh. Hein, l'éducation, on prépare les jeunes à devenir compétitifs et on les rend compétitifs au sein de la classe, entre les classes, entre les professeurs.
Avec les systèmes de notes, de classement, de redoublement.
Entre les écoles aussi. Il y a des compétitions. Donc là, d'emblée, on fait comprendre à l'enfant qu'il est normal d'être en compétition, d'être en rivalité. Et là aussi, peu importe ce qu'on peut sacrifier ou comme enfant sur le chemin ou même à l'intérieur de l'enfant comme aptitude. L'idée est d'être efficace, d'être performant. Alors qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre qui sont pas forcément qui n'entrent pas dans le champ de cette compétition et de ces choses à acquérir. La culture, par exemple, c'est quelque chose qui est pas du tout compétitif.
La psychologie.
Alors l'art aussi entre difficilement là-dedans. Alors les valeurs aussi spirituelles, celles de l'esprit, de la conscience. On se rend compte vraiment que c'est très très limité. Et on connaît les mots de la compétition dans la vie de tous les jours. C'est que on a une société, un monde malade à cause de cette compétition.
Parce que quelques-uns vont s'en sortir, quelques-uns vont être faits pour ça quelque part et vont s'en sortir, vont dominer les autres. Et la plupart des gens vont se retrouver laissés sur le bord de la route, en fait.
Voilà, les plus aptes, les plus intelligents ou les plus habiles, en tout cas, vont réussir, vont dominer. Ils vont gagner plus d'argent, ils vont pas forcément penser à l'utiliser pour le bien commun, à le redistribuer. Il y a l'idée aussi qu'il faut réussir pour asseoir une forme de suprématie. Donc en fait, on n'est pas du tout dans des valeurs humanistes, humaines et même transpersonnelles. Donc c'est vraiment un mal qui est assez qui n'est pas forcément remis en question, ou alors difficilement. Il y a quand même des méthodes qui ont remis en question cette...
Parce que le dogme, la pensée dominante dit que la concurrence, c'est quelque chose de bien, et que la concurrence fait avancer globalement les sociétés. C'est un peu un dogme. C'est-à-dire que peut-être
c'est
que dans
la jungle, en plus.
Oui.
C'est pas quelque chose... La culture est au-dessus de cette idée de loi de la jungle. Alors, si on est un animal dans la savane, c'est sûr qu'il faut s'en sortir. Mais on est plus que des animaux, on est des êtres de culture. Et du coup, l'école en fait forme des gens à ce que Joel Kuhl appelle la civilisation. On a tendance à former des gens civilisés. Alors les plus intelligents, les plus instruits vont avoir accès à la culture. Et ils vont exercer après des postes assez dominants. Mais pour lui, il y a même une troisième étape qui est celle de l'initiation, c'est-à-dire de l'entrée dans un nouveau champ de conscience, ce qu'on appelle, nous, la dimension spirituelle, ou on pourrait dire ésotérique, cachée. Donc là, c'est une dimension qui est complètement inconnue. Et ce que Platon disait, et tous les sages de l'Antiquité disaient, que quand une société avait ses mystères, ses entraînements à l'initiation, c'était vraiment le nectar, d'une société. C'était plus que sa culture encore, c'était avoir accès à quelque chose d'autre que... Parce que la culture reste quand même un champ de connaissances dans différents domaines, mais là, c'est plus qu'un champ de connaissances, c'est un champ d'expérience de quelque chose de beaucoup plus large. Donc ça, c'est pas... L'initiation, l'évolution spirituelle n'est pas au centre de l'éducation.
Alors que ça fait partie du connais-toi toi-même, justement.
Et voilà, et le problème, c'est que c'est trop associé à quelque chose de religieux, alors que ça pourrait être avoir une dimension laïque. C'est-à-dire, ça inclurait l'approche religieuse, mais aussi, à la rigueur, on parle maintenant de spiritualité athée, ou même une forme de spiritualité agnostique, à la rigueur. Mais voilà, la spiritualité, il faut la comprendre comme l'exploration du champ de l'esprit humain. Et ça, voilà, malheureusement, c'est pas au cœur de l'éducation, loin de là.
Donc quel gâchis, en fait, dans le système éducatif actuel, où on va développer qu'un petit aspect de l'être humain, de l'enfant. Et on va oublier, en plus, lorsqu'on devient adulte, qu'on quitte l'école, on va complètement oublier de continuer à se former, à s'éduquer, à s'ouvrir à d'autres choses. On va être pris par cette vie matérielle.
C'est vrai, en tout cas dans les pays dits industrialisés ou alors civilisés, il y a un très grand activisme dans le domaine des affaires ou alors ailleurs. Dans les autres pays, c'est du tiers monde, c'est différent. Il y a un activisme, mais pour survivre. Mais c'est vrai que la formation de l'état adulte, c'est souvent une formation professionnelle. On n'est pas non plus encore vraiment dans une société de loisirs sans l'aspect mercantile. Une société de loisirs pour le loisir, pour l'épanouissement. Ça, c'est aussi
du temps libre.
Voilà, un temps libre pour la culture, pour l'exploration spirituelle, artistique, culturelle. Donc ça, l'adulte cesse de se former en général s'il n'y a pas, on peut dire, une sorte de débouché professionnel. On ne va pas penser, certains le font, on généralise. On veut dire par là que c'est une élite le fait à la rigueur. On a aussi les moyens, parce que malheureusement ça coûte quand même assez cher encore, relativement cher, même s'il y a des bibliothèques gratuites, il n'y a pas encore tous les moyens pour y avoir accès. Et surtout, c'est pas ancré dans notre culture. Hein, que ben voilà, vous êtes formé, vous avez un travail, mais c'est pas le but de la vie.
Alors, autre aspect aussi de l'éducation actuelle, c'est que elle consiste quand même beaucoup à imposer à l'enfant notre propre façon de voir les choses, que ce soit l'imposition qu'on peut, une imposition d'une façon d'être dans une famille, hein, ou que ce soit l'imposition des idéologies ou la pensée dominante en fait, hein, qui est inculquée aux enfants à l'école. Et ça fait qu'on conditionne les enfants comme nous-mêmes, adultes, avons été conditionnés par nos parents, etc. Et que ça fige les sociétés beaucoup. Ça empêche les sociétés d'évoluer rapidement.
Oui, un exemple moi qui me vient à l'esprit, c'est dans l'histoire. On a mis longtemps à expliquer aux enfants à l'école que la France avait collaboré, même beaucoup, avec l'Allemagne nazie. Ça a été longtemps caché ou largement sous-estimé, diminué, alors que maintenant, on commence à comprendre que la résistance avait pris, au début en tout cas, une part très très modeste dans la vie des Français. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais tous les pays rechangent ou transforment leurs livres d'histoire. On a ça un petit peu dans tous les domaines. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on n'a pas de cours religieux à l'école? On en parle beaucoup, mais pourtant c'est un aspect très important de la vie. On a presque plus de formation artistique. Donc oui, on est même conditionné dans les matières qui sont données. Et c'est vrai que la coloration du professeur aussi va être parfois déterminante.
Alors on peut peut-être en parler un petit peu de la formation des éducateurs, moi je dirais aussi de l'absence de vocation. Beaucoup de gens, je ne sais pas, peut-être par conditionnement, hein, s'engagent dans la vie d'être professeur ou instituteur ou professeur des écoles et n'ont pas une véritable vocation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un véritable amour de l'enfant en fait. Hein.
Pas tous peut-être, bon, je ne sais pas, je ne suis pas forcément la spécialiste à ce niveau-là, mais en tout cas c'est vrai que ça devrait être considéré comme une vocation.
C'est extrêmement difficile, il faut donner de soi énormément, il faut vraiment être fait pour ça en fait.
Oui, il faut vraiment les qualités pour cela, c'est vrai. Peut-être que la formation aussi pourrait être améliorée, donc ça veut dire aussi mettre de l'argent. C'est vrai qu'une société devrait mettre une part importante de son budget dans l'éducation nationale. Oui, c'est vraiment très important. Ça veut dire aussi concrètement que les professeurs aient les moyens de mieux travailler. On parlait un peu des différents domaines, mais souvent il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour pouvoir même avoir un professeur de ceci, de cela. Les classes aussi sont surchargées, il faudrait les couper en deux. Au lieu d'avoir une classe de 30, se retrouver avec une classe de 15 enfants, puis peut-être bouger aussi les classes. Donc on voit qu'il y a vraiment, à plein de niveaux, il y a vraiment besoin d'une transformation profonde de l'éducation, ce qui passe par une profonde transformation de nos sociétés. Alors Olivier, tu voulais nous parler du problème de la violence à l'école.
Mais pas à l'école spécialement, David. D'une manière générale, la violence latente chez les enfants, que ce soit dans leur famille ou à l'école ou avec leurs amis, cette violence, elle est due au fait qu'une grande partie de ces enfants-là ne peut pas s'exprimer. Ils ont tout un potentiel qui est complètement réprimé. Alors ça commence à la famille, hein. Dans la famille, chez le petit enfant qui va, mettons, exprimer certaines qualités qui sont mal vues ou taboues, je ne sais pas, dans une famille donnée, hein, compte tenu de la structure d'éducation reçue par les parents. Et cet enfant va être réprimé, on va lui empêcher de manifester tout un potentiel qu'il a en lui. Et puis bien sûr, à l'école, ça peut perdurer, hein. Comme on l'a dit, l'école ne nous forme qu'à développer certains aspects de nous-mêmes, et donc ça crée chez des jeunes une une dévalorisation d'eux-mêmes, hein, puisqu'ils finissent par introjecter ce que la société leur montre, ce que le système éducatif leur montre, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec eux, puisqu'ils n'arrivent pas à s'intégrer au monde tel qu'il est, à la civilisation telle qu'elle est. Et cette culpabilité intérieure, cette répression, cette intérieure permanente, bah, aboutit sur la violence.
Donc on peut aussi dire que cette violence rentre à l'école parce que elle est présente dans nos sociétés et que on est tous à un niveau ou à un autre des acteurs de cette violence. Donc dans notre culture, on devrait dire plutôt civilisation, on a des films très violents, des romans, des... Donc c'est très présent dans la culture proprement dit. C'est présent dans tous les domaines. Il y a dans le milieu familial, on parle de la violence des enfants, mais les enfants reproduisent la violence des parents qui sont hérités de violences familiales transgénérationnelles. C'est vrai que le professeur peut se sentir très très démuni parce qu'il n'est pas formé non plus. Il n'a pas une formation psychologique. Et il est, lui, dans un cadre où il doit, en tout cas pour le moment, tel qu'on comprend l'éducation, où il doit transmettre des connaissances. Alors qu'il est face à des enfants qui ont toutes sortes de problèmes, de difficultés psychologiques. Et vu le nombre, et vu les moyens, et vu sa formation, et l'objectif de la classe, on voit bien là qu'on est souvent dans des formes d'impasse. Alors l'enfant arrive à gérer sa violence ou pas, et à ce moment-là, il passe... Soit il est complètement exclu de l'école et ça arrive... Il y a des milliers d'enfants chaque année qui sont exclus d'école, qui n'en retrouvent pas parfois. Donc là, c'est vrai que cette violence-là, on est acteur, elle est présente, cette violence dans la vie politique. Elle est peut-être beaucoup plus cachée. On ne parle pas forcément de violence physique. Hein. Il y a une violence dans le monde économique qui est vraiment redoutable. Donc on voit voilà qu'on est dans des sociétés qui sont, en tout cas pour le moment, assez malades. Et forcément, cette violence transparaît dans les mots, dans les formes de pensée, et puis jusque dans le geste. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une dimension psychologique qui devrait faire partie beaucoup plus profondément dans le futur de la formation des enseignants pour qu'ils puissent, en tout cas qu'il y ait... En tout cas, des formateurs, des enseignants différents, et certains avec peut-être une dimension plus psychologique, sans que l'école devienne un centre de thérapie, mais si l'école avait comme vocation d'ouvrir les individus, il faut les aider aussi à dépasser des problématiques internes.
Alors David, je te propose une pause, on va s'écouter un petit peu de Mozart, et puis là on a vu jusqu'à présent le système actuel, hein, on a essayé de parler autour du système actuel et puis après dans une deuxième partie je dirais on va essayer de décrire un système idéal tel que ce livre d'Alice Bellet, Éducation dans le Nouvel Âge, l'envisage. Hein. Vivez conscient, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission avec David et émission consacrée cette fois au thème de l'éducation. On vous a dans un premier temps dit déjà que nous n'allions évoquer que les enseignements de sagesse transmis par Alice Bellet au début du XXe et qu'on sait très bien qu'il existe quantité d'autres écrits de grande valeur sur le thème de l'éducation. Bon, on s'est concentré dans cette émission sur... le livre Éducation pour le Nouvel Âge d'Alice Bellet. On a vu dans un premier temps, on a essayé de parler un peu autour de l'éducation telle qu'elle est envisagée actuellement Et puis, on a essayé d'ouvrir en disant que l'éducation ne devait pas être concernée que l'enfant, mais c'est quelque chose, c'est un processus qui doit nous accompagner tout au long de notre vie, et que l'objet de l'éducation ne devait pas se réduire à faire fonctionner un enfant dans une civilisation telle qu'elle est, mais à permettre au potentiel d'un enfant, d'un être, de s'épanouir, hein, dans un enfant ou d'un adulte. Épanouir le potentiel, ça devrait être le but de l'éducation, hein, alors que le but actuel de l'éducation, c'est plutôt forcer l'intégration de l'être dans la société actuelle. Donc c'est complètement un renversement, quelque part, déjà du but, donc forcément des moyens, on va en parler.
Alors répétons-le, l'éducation est le reflet de nos sociétés, de nos politiques, de nos choix politiques, donc de nos valeurs. Donc si on change nos valeurs, on change nos politiques, c'est-à-dire la politique, c'est quand même ce qui décide de la vie de la police, la ville. Donc c'est une part importante, mais voilà, c'est pas la faute de l'éducation proprement dite, c'est la faute en quelque sorte de toute notre politique, et donc derrière notre faute commune à tous, c'est-à-dire celle des valeurs que l'on choisit pour dans nos vies, dans nos sociétés. Donc en admettant, prenons l'hypothèse que l'on accède à des nouvelles valeurs, qu'on les reconnaît comme étant importantes, dans des valeurs humanistes, spirituelles, on va dire, à ce moment-là, donc, on se penchera sur l'économie, sur la politique proprement dite, sur l'énergie, sur la science, la médecine, etc. Et forcément, l'éducation aussi vivra une transformation. Donc, on va essayer, hein, Olivier, de décrire ce qui serait idéal à mettre en place. Hein, sachant que c'est un processus et que ça peut mettre des générations et des générations pour que tout ça se mette en place. Hein. Alors, quelle serait, Olivier, une des premières choses importantes, selon toi, à considérer comme valeur essentielle dans l'éducation de demain ?
Il me semble que ce qu'il faudrait, enfin, d'après Alice Bailey, hein, l'essentiel à mettre en place serait une éducation mettant en avant la valeur de l'individu. Hein, on parlait de la violence tout à l'heure en disant que c'était dû à un manque de respect de l'individu pour lui-même, en fait. Hein, c'est l'origine de la violence. Et comment éviter ça? Eh bien, c'est justement en mettant en avant la valeur de chaque individu. Et ça veut dire reconnaître ses différences. Ça veut dire reconnaître son potentiel. Et le potentiel de chacun est différent à la naissance. Alors ça, c'est peut-être pas forcément admis par tout le monde.
On n'est pas tous des génies.
On n'est pas tous des génies, mais en plus, on est différents. Hein, c'est la bataille de l'inné et l'acquis, on a un inné, il y a quelque chose. Donc les enseignements de sagesse ancienne disent qu'il y a plusieurs vies et que donc on arrive dans une vie donnée avec un potentiel latent des choses qui ont été acquises dans les vies précédentes.
Donc il y a un point de développement qui n'est pas le même et qu'il faudrait commencer à prendre en compte. Il y a des niveaux d'évolution qui dépendent, alors dit la sagesse éternelle, du moment où l'âme a commencé son évolution, comme si on n'avait pas commencé tous ensemble l'école Terre au même moment. Et à ce moment-là, donc, on aurait des grandes divergences qu'il faudrait reconnaître. Ça voudrait dire que vraiment la vision de l'âme et de la renaissance serait prise en compte dans cette optique-là. C'est vraiment là une grande révolution culturelle.
Ben, c'est l'enseignement de base donné par ce maître tibétain dont tu as parlé, ce sage tibétain
Chuan Kul,
c'est de dire que l'être humain est en fait, comment il dit ça,
une âme, un soi supérieur, une conscience supérieure,
et que c'est
incarnée.
Cette conscience qui s'incarne, voilà, de vie en vie, et au fur et à mesure du développement de ses vies, eh bien, cette âme va avoir davantage de capacité à exprimer ce qu'elle est au fond d'elle-même, ce qu'elle est réellement. D'où les différences qu'on peut constater entre les personnes qui peuvent plus ou moins exprimer la valeur intrinsèque de cette âme.
Alors, il ne faut pas confondre le niveau d'évolution d'un enfant ou alors d'un adulte, avec après les qualités particulières qu'il peut avoir. Hein. Donc le niveau, c'est peu importe à la rigueur, dans un même domaine.
Le niveau, ça a trait à la conscience.
Voilà,
en fait, hein.
Donc aux potentialités, même si on prend dans un même domaine, deux enfants vont avoir des potentialités complètement différentes, des capacités complètement différentes selon le niveau d'évolution, le niveau de conscience.
Et les expériences des vies passées.
Voilà. Alors que il y a un autre aspect, c'est la nature propre des individus. Donc là, c'est des sortes de qualités énergétique, on appelle ça rayon dans l'enseignement ésotérique d'Alice Bellay, mais on va garder le mot qualité. Il y en aurait 7 essentiels et on serait une sorte de mélange plus ou moins représentatif de ces diverses qualités.
Si on veut simplifier, on peut dire qu'il y a des qualités qui tournent vers l'introversion et d'autres vers l'extraversion. Hein, des gens qui vont être plus à l'aise pour avoir une vie intérieure riche et d'autres plus à l'aise pour être en relation avec les autres dans le monde.
On va les citer peut-être pour rendre ça un petit peu plus pratique. Donc il y en a qui sont plus sensibles à l'aspect amour-sagesse, la compassion, d'autres au sens de la beauté, certains à tout ce qui est de l'ordre de l'idéalisme. Ça, c'est la ligne de l'introversion, Olivier?
Oui, puis d'autres vont être des gens très organisés, très mathématiques, très analytiques, très dans la
pensée abstraite.
Ouais.
Ou alors des types de volonté, parce qu'il y a aussi des hommes, femmes, des êtres qui sont, je vais pas dire des Alexandre le Grand en puissance, mais qui sont sur ce type-là, ce type volonté. Donc on a des exemples dans l'histoire. Hein.
Des gens qui savent ce qu'ils veulent dès l'enfance. On voit des petits-enfants comme ça quelquefois, c'est rare, hein, mais ça existe. Hein.
Très très volontaire. Donc ça veut dire qu'il faut accepter qu'on n'est pas tous des gentils ou des intelligents. Il y a des capacités très diverses, même à la rigueur pour un même point d'évolution, pour un même degré
de conscience.
De conscience, il va y avoir des qualités très diverses.
Et donc l'éducation devrait s'adapter à cette nature intrinsèque de l'être justement qui vient en incarnation, si je veux employer ce langage. Hein. Et donc il faudrait des éducateurs qui soient formés à reconnaître ces différentes qualités et ensuite bien sûr des méthodes d'éducation qui vont dépendre et être adaptées à chaque nature d'enfant. C'est donc ça, ce qu'on veut dire, c'est que c'est au lieu d'être une sorte de moule, l'éducation est une sorte de moule dans lequel tout le monde doit passer, eh bien ça va devenir, au contraire, complètement adapté à chaque enfant.
Alors, le Tibétain cite des outils, ça peut faire sourire. Donc, il y a cette nouvelle forme de psychologie, il appelle ça la psychologie, lui, ésotérique, celle qui a trait à l'étude des 7 rayons, savoir reconnaître ses énergies chez un individu. Il parle de connaître les points de développement, hein, les points d'évolution, les stades de développement dans un être humain. Et il parle de l'astrologie, ça peut faire sourire, mais une nouvelle forme d'astrologie ou qui ne sera pas du tout prédictionnelle, mais ça sera une astrologie où, avec le thème natal de l'enfant, on pourra un peu voir les potentiels, les planètes représentant justement ces énergies, ces rayons, pour avoir un petit peu les potentiels de l'enfant et un petit peu saisir les grandes directions, sa vocation. C'est-à-dire l'école doit aider l'enfant à découvrir quel est son chemin d'évolution, sa vocation, ce pourquoi il est fait, ce pourquoi il est venu. Alors Olivier, on parlait de différents outils qui seront, alors il y en aura sûrement d'autres, hein. On a cité quelques outils qui seront mis à disposition de l'éducateur, une meilleure connaissance plus approfondie de la nature humaine à travers ses rayons, ses qualités psychologiques. Il y a aussi une meilleure compréhension de la constitution de l'homme. Hein. On n'a pas trop parlé ça, mais on va essayer d'ouvrir plus la compréhension de l'homme, c'est-à-dire c'est pas seulement un corps avec une conscience dedans, mais on va essayer de comprendre les différents niveaux, hein, c'est-à-dire le corps tel qu'on connaît, mais il y a l'idée d'un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps spirituel, si on voulait parler de corps, de strates, de dimensions. Donc on va essayer aussi d'avoir une éducation qui s'adresse à ces différents niveaux, donc il faut connaître l'individu, voir comment tout ça fonctionne. Donc selon le développement de l'individu, on va dire les couches supérieures, pour faire image, vont être plus ou moins éveillées. La couche mentale va être plus ou moins éveillée. Si la couche mentale est assez éveillée, peut-être que la couche spirituelle. Donc on voit l'importance de la culture qui éveille la sphère mentale, alors que la dimension spirituelle éveille la sphère supérieure.
Ça se traduit assez concrètement, d'ailleurs, chez un enfant, quand on est dans des classes d'enfants de 2 à 3 ans, 3 ans, mettons 4 ans, on peut déjà sentir que certains sont naturellement une tendance à être responsables. Un peu comme s'ils avaient déjà une sorte de sagesse intérieure,
de maturité,
une maturité intérieure, et puis d'autres non, d'autres sont portés sur autre chose. Ça peut paraître un peu abstrait ce qu'on a dit jusqu'à présent sur ces différentes natures, mais Bon, parce qu'on n'a pas là pour, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, mais les éducateurs dans ces classes-là, hein, de petits enfants, voient d'entrée des différences phénoménales entre les enfants. Pas croire qu'une classe d'enfants de 3 ans, c'est une classe d'individus très différents les uns des autres.
Voilà, donc il y a cette notion d'individualité. Donc il y aura ces outils-là psychologiques, on a parlé de l'outil astrologique, il y en aura peut-être d'autres qui seront mis à disposition. Tous les moyens sont bons, ma foi, pour essayer de comprendre l'individu, de le cerner par rapport à sa nature, donc on va dire ses rayons, et par rapport à son stade de développement.
Alors Alice Bellé parle aussi de conditions qu'il faudrait mettre en place au sein des écoles, par exemple, ou que ce soit les écoles ou lorsque le processus éducatif est en route, hein, parce que ça peut être aussi bien au sein de la famille. Hein, et elle parle d'atmosphère qui favorise, en fait, qui permettent aux qualités de l'enfant de s'épanouir. Donc elle parle, par exemple, de l'atmosphère d'amour, de bannir la peur, un lieu où l'enfant comprend qu'il n'a pas besoin d'être timide, hein, qu'il n'a pas besoin d'avoir peur d'être d'être sur ses gardes.
Donc on évite d'humilier les enfants, on les met dans des dispositions où on va les inviter à s'exprimer, à être authentique, spontané.
Alors, deuxièmement, une atmosphère de patience aussi, où on va laisser le temps à l'enfant d'être à son rythme. Et là, on voit aussi, hein, dans une classe d'enfants de 3 ans, à quel point chaque enfant a un rythme différent. Eh bien, il faut que le rythme de chaque enfant puisse être respecté. Elle dit que dans son livre que l'impatience de la part de ceux dont dépendent les enfants, donc les adultes en fait, ça sème les graines de l'irritation pour l'enfant. Elle affirme que beaucoup de vies, en fait, sont gâchées par l'irritation. Beaucoup de gens sont dans l'irritation en permanence et ça vient du non-respect de leur propre rythme intérieur depuis leur enfance, en fait, hein, par l'éducation reçue dans la famille ou à l'école. Autre atmosphère aussi, une atmosphère d'activité ordonnée. Et on voit bien ça, moi je connais un peu la méthode Montessori, hein, au niveau des méthodes éducatives, et à quel point c'est quelque chose qui est très mis en avant dans cette méthode, qui crée un cadre dans lequel l'enfant va pouvoir acquérir son propre sens des responsabilités. Parce qu'il y a un ordre, il y a une logique, il y a quelque chose de connu qui fait qu'il va pouvoir progresser de lui-même et être responsable de son propre évolution dans une certaine mesure. Ça permet de développer le sens de la responsabilité, en fait, cette ambiance d'atmosphère. Et quatrième type d'atmosphère, c'est l'atmosphère de compréhension, où l'enfant va pouvoir tout dire, puisqu'il sait par expérience, hein, que les adultes autour de lui vont comprendre les motifs, par exemple, de ses impulsions, et ne vont pas le juger négativement. Voilà, donc il y a dans ce livre d'Alice Bellé des choses assez concrètes, il faudrait aller voir plus le détail ensuite, mais assez concrètes sur l'ambiance, par exemple, qu'il faudrait mettre autour du processus éducatif.
Alors parlons un petit peu des adultes, on se rend compte que les adultes, dès qu'ils sont mis dans une situation apparentée à une situation scolaire, retrouvent en fait des conditionnements d'enfance. Donc en fait, c'est tout ce que tu dis est tout à fait valable pour un adulte. Parce que apprendre, c'est se mettre dans une situation d'humilité. Je ne vais pas dire que c'est redevenir enfant, mais en tout cas, c'est reconnecter aussi quelque chose de la part de son enfance. Donc, parfois, chez certains adultes, le milieu scolaire a été traumatisant, a été vécu très négativement, ou alors il a été vécu peut-être sur une forme d'excellence, avec brio, et alors que là, un adulte va pouvoir être...
ne pas être parfait.
Voilà,
tout de suite,
ouais. Et se trouver dans une situation où il n'est pas du tout à l'aise. En tout cas, toutes ces valeurs sont valables, bien sûr, dans une relation aussi d'adulte à adulte, où en fait l'adulte va aussi devoir de nouveau se trouver dans une situation, comme tu dis, de patience, d'écoute, de compréhension, d'ouverture.
On a bien vu ça lors du passage à l'informatique il y a quelques lustres, hein, lorsque des adultes ont dû à un moment se mettre à l'informatique. On a trouvé beaucoup de gens qui étaient mise dans une grande vulnérabilité intérieure, je dirais, face à cet outil, face à cette chose à apprendre et qui, pour certains d'entre eux, ne leur correspondait tellement pas qu'ils n'y arrivaient pas, quoi.
Et quand on n'est plus dans la compétition, et qu'on est dans un esprit de coopération, à ce moment-là, on n'a pas à prouver quelque chose à ses collègues ou aux autres, ou alors aux autres adultes qui font partie du cours, par exemple, mais on, au contraire, on peut s'entraider, donc on peut développer l'aspect de l'entraide, de la fraternité. Donc là aussi, ça casse complètement l'atmosphère tendue que peut donner une atmosphère de compétition. Donc en fait, les adultes aussi pourront aller vers des formations, vers des loisirs, vers des groupes divers, sans qu'il y ait une incidence ou un besoin de économique, je dirais.
Briller ou d'être meilleur.
Voilà, on ira vers des cours, des stages et autres. Alors ça se fait beaucoup dans le développement personnel, mais ça, pour l'instant, c'est une partie de la population. On parle de créatifs culturels, surtout, qui ont tendance à aller vers cela. Mais peut-être que ça sera généralisé, on comprendra que, tiens, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Là, je vais dans un groupe de dessin, là, je vais faire du chant, là, au contraire, je vais apprendre à, je sais pas moi, étudier la forêt, enfin, peu importe, la méditation, la relaxation. Voilà, on va entrer dans une société où l'adulte lui-même va se retrouver naturellement, spontanément, dans des situations d'apprentissage. Donc, ce qu'on a dit pour l'enfant est tout à fait valable aussi pour l'adulte, à la différence que c'est peut-être un peu plus compliqué pour l'adulte parce qu'il a plus d'années de conditionnement et qu'il va devoir faire face justement à des schémas qui sont parfois très, très rigides. Alors, chez l'enfant, c'est encore souple tout ça. On n'a pas parlé de la voix, Olivier, de forte et de moindre résistance. Qu'est-ce que c'est? Le Tibétain en parle souvent. Quand on étudie un individu, on va comprendre un petit peu ses voies de moindre résistance, c'est-à-dire ses qualités premières, celles que l'individu, enfant ou adulte, va pouvoir exprimer naturellement, où là, il va être à l'aise. L'idée, c'est d'utiliser ces voies de moindre résistance pour après développer ce qu'on appelle les voies de forte résistance. Si on est plutôt sensible, plus intériorisé aussi, il va falloir aussi apprendre à développer l'autre voie, et vice-versa, dans tous les domaines. On dit qu'on a deux cerveaux, un droit et un gauche, qui représentent ces deux tendances-là. L'idée, c'est d'utiliser ces deux cerveaux, d'utiliser ces deux natures. Alors, il y en a une qui est plus difficile. Et là encore, on voit que tout ce que tu dis, l'atmosphère va être très importante, surtout quand l'enfant ou l'adulte va être dans une situation où il va devoir développer, parfois éveiller pour la première fois, certaines qualités. Ça peut être des qualités corporelles, de sensibilité intellectuelle, voire spirituelle, s'il s'adonne pour la première fois à la méditation, par exemple. Peu importe les domaines, mais on voit que l'atmosphère va être très importante dans ces situations-là. Alors Olivier, il nous reste une autre partie à explorer, c'est le contenu.
Le contenu de l'éducation, qu'est-ce qu'on va apprendre
Quelles sont les choses essentielles qui vont changer? De quoi parle le Tibétain?
Donc on a déjà évoqué le fait du connais-toi toi-même, c'est-à-dire l'importance de se connaître, non pas en tant que seulement homo economicus, mais en tant qu'être au total, donc en tant qu'être incarné avec sur Terre, donc dans un corps avec des capacités latentes qui existent déjà, des potentialités qui existent déjà et qu'on pourrait rapidement refaire surgir à la surface et donc réutiliser dans un premier temps ce que tu appelais un peu la ligne de moindre résistance pour ensuite aller s'attaquer à des nouveautés et apprendre des nouvelles choses dans cette expérience sur Terre. La vie deviendrait passionnante. Donc ensuite le contenu, eh bien d'une manière générale aussi, si on reconnaît cette dimension de l'homme en tant que âme, eh bien, on reconnaît aussi l'unicité du genre humain, et donc on va avoir tendance à se considérer, à voir la vie dans son aspect universel. Si on étudie l'histoire, on va pouvoir ne pas opter pour le point de vue de celui qui raconte. Si je suis français, je ne suis pas obligé pour autant de considérer le monde uniquement à travers les yeux d'un français, c'est extrêmement réducteur. Il va falloir que je puisse arriver à me considérer comme un être humain, comme un citoyen du monde, et être capable de voir l'histoire aussi bien du point de vue d'un persan ou d'un chinois.
Alors le Tibétain parle d'internationalisme plutôt que de nationalisme, d'apprendre à penser avant tout en termes donc planétaires, transculturels, en termes fraternels on peut dire. Donc c'est-à-dire d'abord l'unité du genre humain, parce que tous les êtres humains ont quand même des valeurs, des choses en commun, avant même la culture, on va dire. Et ça, déjà, c'est, on peut dire, c'est la dimension, c'est le point de vue spirituel. Hein? L'esprit ou l'âme universelle, l'idée que l'humain fait partie d'une grande famille, qui est plus qu'une famille de sang. Et après viennent les différences culturelles, qui sont des différences mentales, en fait, essentiellement mentales, émotionnelles et aussi physiques. Mais voilà, le pôle spirituel, là, on peut voir ce qu'est vraiment la spiritualité. C'est pas forcément religieux, hein. C'est plus large que ça, c'est tout ce qui est commun à l'être humain et qui sont de l'ordre de l'esprit, forcément. Donc, il y a ça, c'est très important. Alors, il cite aussi, Olivier, la vie des grands hommes. Alors, pas seulement, il dit qu'on a souvent tendance à mettre en avant les grands conquérants, parce que dans l'histoire, c'est sûr que les Césars et les Napoléons et autres ont changé la face du monde, mais aussi les hommes de vertu, les hommes qui ont par leur vie montré des valeurs humaines très importantes, autres en tout cas que celles de l'action, du pouvoir, de la volonté.
Ce sont des exemples, hein.
Voilà, surtout au niveau moral, hein. Donc bien sûr, il y a les grands sages, hein, les Bouddhas, les Jésus, mais même quand on enlève la dimension religieuse proprement dit, hein, d'un point de vue historique, moral, philosophique.
On peut étudier la vie de Gandhi, la vie de Schweitzer, puis la vie des grands artistes aussi.
Voilà,
comme
dans chaque domaine. Des Einstein, les gens qui... Pour que l'enfant, en fait, ou même l'adulte, s'il s'intéresse, ait un modèle. Il y a cette notion de modèle qui revient. Quelle est l'importance du modèle ? À quoi ça sert d'avoir... un modèle...
C'est un exemple de potentialité qui ont réussi à se mettre en œuvre chez certains individus et qui chez nous sont peut-être encore latentes seulement. Hein? Donc de voir que ça existe et ça va nous aider à éveiller cette qualité similaire en nous, en fait.
Alors on n'a pas cité de femme, mais bien sûr, hein, là il n'y a aucune différence, homme-femme, peu importe les continents, même l'âge. Hein. Mais l'idée, c'est vrai, c'est qu'on choisit des individus, on va dire là pour le coup, évolués, qui ont marqué la vie mondiale, en tout cas la vie nationale parfois de leur pays. Mais donc c'est vrai que ça peut être des modèles, on peut s'identifier ou se dire, si on est scientifique, par exemple dans sa voie, surtout Einstein en plus avait vraiment des valeurs philosophiques, on va pouvoir comprendre, c'est un scientifique, mais au sens très large du terme, c'est un humaniste, un philosophe, Einstein. Mm. Donc on va pouvoir en tout cas s'identifier à des valeurs que l'on a, comme tu dis, en soi, mais on va comprendre qu'on va pouvoir se développer de cette manière-là. Si on est dans la politique, on peut étudier la vie d'un Abraham Lincoln. On peut avoir donc des modèles identificatoires, des valeurs dans chaque domaine.
Donc on voit que l'éducation qui consiste à apprendre aux gens à lire, à écrire et à compter, c'est une base, hein, évidemment, il faut le faire, hein, c'est clair, mais il faut aller beaucoup, beaucoup au-delà de ça, quoi. Il faut aussi s'ouvrir à toute la dimension psychologique de la vie, et notamment à la vie familiale, à la vie de couple, à la vie de parents aussi. Tout ça, c'est important. Actuellement, on n'est pas formé, hein, académiquement en tout cas, à la vie de parents.
Donc il y aura une forme de formation psychologique et pour les adultes, et pour les enfants, à comprendre qu'est-ce que c'est que la relation humaine, comment elle se base, qu'est-ce que c'est qu'une relation juste, comment fonctionne la psyché. C'est vrai qu'il y aura une forme de formation psychologique. C'est normal, on est des êtres de psyché, de conscience, donc il devrait être normal qu'on ait des formations de base à ce niveau-là pour mieux comprendre tout le jeu relationnel entre deux personnes et entre plusieurs personnes.
Et on va aussi apprendre consciemment à développer nos propres aptitudes et à déjà à maîtriser, si on peut dire, l'instinct, hein, les attitudes instinctives qui sont de l'ordre animal, hein, chez l'être humain, puisque nous sommes dans un corps animal. Il faut les maîtriser, les discipliner, disons. Et puis, on va développer notre capacité intellectuelle en tant que telle.
Ça, c'est le domaine de la culture, comme le dit le Tibétain.
Oui, mais aussi au niveau de la méthode, je veux dire. Hein, comment développer le cerveau, comment développer la mémoire, comment
Les méthodes d'apprentissage, tu veux dire.
Voilà,
d'accord.
Oui. Hein, et puis aussi, au-delà, arriver à développer l'intuition. Donc là, on passe, l'intuition est d'un registre supérieur, on peut dire, hein, de l'intellect. Comment développer l'intuition ? Ça, il y a des méthodes pour ça, on peut le pratiquer.
Alors justement, Joel Kuhl parle de la... des écoles supérieures, qu'il appelle lui des écoles de mystère, des écoles d'initiation, comme dans l'Antiquité, hein, comme chez les Grecs et puis ailleurs. Et donc il dit que ça sera des sortes d'universités supérieures, où on apprendra donc aux jeunes adultes à méditer. À... Donc il étudiera bien sûr toute la constitution humaine et on lui enseignera des méthodes pour explorer ce champ de l'esprit, hein, ce champ spirituel. Et il parle aussi de l'importance de la philosophie, donc ça c'est aussi très important. Pour l'instant, quand on fait de la philosophie, on fait de l'histoire de la philosophie. C'est rare de trouver des professeurs qui... Alors, ils sont eux aussi tenus par le programme, par les examens. Mais quand on trouve un professeur qui vous apprend à penser...
À réfléchir par soi-même.
À réfléchir, à discerner et à penser abstraitement, eh bien, c'est un trésor, quelque chose de très important. Donc là, plus on avance dans l'âge, plus on approche... Le Tibétain parle de tranches d'âge aussi, hein. Il les classe ou par 10 ou par 7. Hein. Donc 0 à 7, c'est l'aspect physique. 7, 14, c'est beaucoup l'aspect émotionnel et on commence à développer le mental. Mais après 14 ans, on commence à avoir des capacités d'abstraction. Et là, donc, la philosophie est la bienvenue, en fait. Hein. On la commence peut-être trop tard, la philosophie. Hein. Mais toute une philosophie, on va pouvoir aussi comparer les idées dans les différentes cultures, voir ce qui est différent et voir aussi ce qui est essentiel, ce qui est universel, les grandes idées qui reviennent profondément. Et donc, dans des philosophies aussi, on étudie... Moi, j'ai fait des études de philosophie, enfin, j'avais un bac philosophique et je me souviens qu'on a étudié que les philosophes européens ou alors de l'Antiquité, mais on n'a pas étudié les philosophies orientales. Et quand on les découvre, on voit que c'est un mode de pensée complètement différent.
Donc on voit que on va vraiment être beaucoup moins spécialisé en fait. L'éducation va moins s'orienter vers la spécialisation des êtres.
Oui, il y a une notion d'ouverture, une notion pluridisciplinaire. Hein, on fera de la flûte, on fera différents sports, on passera à de l'informatique, on fera bien sûr des maths, du français, on fera de l'histoire. Enfin, on fera un peu de philosophie, après un peu de relaxation, de méditation. Enfin.
Voilà, et tout ça se continuera en fait tout au long de la vie. Hein.
Voilà, de la psychologie. Alors, on n'a pas parlé des voyages aussi, l'importance d'aller sur place. Alors déjà, de plus intégrer l'école dans la vie sociale. Donc ça se fait de plus en plus déjà. Hein. Hein, c'est-à-dire d'aller rencontrer soit des professionnels dans tel ou tel domaine, ou alors la vie sociale, publique... administrative.
Oui, on peut même envisager les écoles sans mur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus des bâtiments dans lesquels on viendrait concentrer les enfants, mais que l'école serait partout, dans la vie. Donc les enfants iraient dans les entreprises, iraient dans les ministères, iraient dans les ateliers de création, etc., et voyageraient beaucoup pour apprendre la vie. Mais c'est pas un peu comme ça que ça se faisait du temps des Grecs, David ?
Au temps des Grecs, il n'y avait pas l'avion, Olivier. Donc, il n'y avait pas non plus le train, à ma connaissance. Donc, il n'y avait pas les moyens que l'on a maintenant. Mais ces moyens, on sait, deviendront beaucoup moins chers, beaucoup plus abordables. Mais il y avait des gens qui voyageaient. C'était assez
non, mais
incroyable.
Je veux dire que l'éducation se faisait en plein air dehors. Quoi.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça se faisait beaucoup dans les parcs, à l'extérieur, même en Inde, un petit peu partout. Oui, il n'y avait pas ce côté figé. Il y avait aussi pas forcément les problèmes de sécurité, de violence aussi que l'on a maintenant, qui sont peut-être transitoires, espérons-le. Mais c'est vrai qu'avec aussi des modes de transport moins chers, peut-être plus rapides, plus efficaces, moins fatigants, on va aussi beaucoup plus ouvrir, voyager beaucoup plus. Et là, on dit toujours, si on fait voyager beaucoup quelqu'un, ces gens-là ont l'esprit toujours beaucoup plus ouvert que ceux qui sont jamais sortis de leur village. Donc ça, c'est très important, la culture. Hein. Le voyage, pardon. Hein. Ça ouvre vraiment des champs, des nouvelles perspectives dans la conscience humaine.
Alors David, va falloir conclure.
Qu'est-ce que ça va ouvrir tout ça? Si cette nouvelle éducation se mettait en place, on peut imaginer un petit peu les nouvelles générations qui...
Et oui, et en même temps, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Hein. Cette éducation ne peut se mettre en place que si nous-mêmes, en tant qu'adultes, avons déjà une plus grande ouverture que celle qu'on nous a inculquée dans notre propre éducation, parce qu'autrement on peut pas éduquer les enfants à plus d'ouverture qu'on en a soi-même. Donc en fait, il faut leur laisser la liberté d'être eux-mêmes, et s'ils sont plus ouverts que nous, il faut leur mettre les conditions qui leur permettent de développer leur potentiel en fait.
On a eu des pionniers dans le passé, il y en aura encore, il y en aura encore. Et il y aura des écoles expérimentales et celles qui seront vraiment très efficaces, qui marcheront très très bien, bah, il y aura aussi des modèles qui seront nationalisés, on peut dire, et au fur et à mesure, c'est comme ça que l'éducation nationale devrait s'enrichir des expériences pilotes ici ou là, dans le pays même ou à l'extérieur. Mais au fur et à mesure, c'est vrai qu'on va créer des nouvelles générations, mais l'éducation, il faudrait le concevoir comme un investissement à long terme. Il faut mettre de l'argent. Si on met de l'argent, c'est qu'on y met un intérêt, c'est qu'on sait que c'est beaucoup plus important. Et si, plus on ouvre les valeurs, plus on va avoir des gens qui vont sortir de ces écoles-là, supérieures même, ou même des écoles, même si on s'arrête tôt à l'école, mais qui auront une richesse humaine intérieure qui forcément, ces gens-là vont...
rejaillir sur
voilà, tout, ça va
pendant
colorer.
Toute leur vie d'adulte ensuite, et donc rejaillir sur des sociétés qui vont être beaucoup plus florissantes, beaucoup plus harmonieuses.
Et on peut penser aussi que l'interactivité, les échanges culturels vont faire casser les derniers remparts de nationalisme bête et étroit, de guerre, de compétition aussi économique et autres. On va vraiment avoir des gens qui vont apporter à la culture mondiale des valeurs tout autres.
Et ça sera très généralisé, en ce sens, je veux dire par là que l'ensemble des adultes pourront profiter de ça, beaucoup plus que maintenant, puisque l'augmentation de la productivité fait qu'on pourrait travailler de moins en moins, hein, si on acceptait de vivre de façon peut-être un petit peu plus simple, mais au niveau matériel. Mais on va dégager énormément de temps, globalement, dans sa vie, qui pourra être consacré à cet art de vivre.
Avec aussi les trois âges, on n'a pas parlé des personnes âgées, mais quand on disait adulte, il fallait aussi comprendre bien sûr le troisième âge, hein, où on parle même parfois maintenant de quatrième âge. Mais en tout cas, l'idée que de plus en plus de gens, comme tu dis, vont avoir de plus en plus de temps et qu'on va mêler les cultures, mais aussi mêler les âges, c'est très important, hein, que des adultes ou des personnes âgées côtoient les enfants et vice-versa. On en parlait quand les enfants allaient à l'extérieur, ça va enrichir aussi... On ne va plus avoir non plus ces maisons de retraite qui sont un peu des mouroirs ou des espaces où on attend la mort. Mais si on fait aussi entrer cette dimension-là chez les personnes âgées, on peut voir qu'on va évoluer jusqu'à son dernier souffle. On va apprendre. Et s'il y a cette notion de réincarnation, on va se dire, ma foi, tout ce que je fais là, ça va m'être utile pour la suite.
Pour la vie d'après, oui. Ouais.
Ce qui n'est pas du tout intégré. On se dit, bon, en tout cas, c'est fini.
Actuellement, oui. Ouais.
Pourquoi m'embêter plus ?
Alors, voilà, des idées très générales sur l'éducation. On va arrêter là, David. Donc, pour redire que ces idées nous sont venues à la lecture du livre d'Alice Bellay.
Éducation dans le Nouvel Âge.
Aux éditions...
Lucis Trust. C'est un petit livre, il fait 150 pages maximum, je crois. Vraiment, très facile à lire, enfin facile. Court, avec plein d'idées, très concentrées, très riches, que l'on conseille.
Des grandes orientations pour l'éducation de demain, qui laissent augurer d'un nouvel âge d'or, un âge très positif dans lequel bien des enseignements de sagesse disent qu'on est en train d'entrer, contrairement aux apparences.
Eh bien, merci Olivier, merci à tous.
Merci David.